BFM Business, l'info éco.
8h30 pile, le journal avec Léo Dumas.
Et cette fois, tout le monde semble d'accord. Le médiateur pakistanais Donald Trump et les Iraniens, ils ont tous annoncé cette nuit la fin des hostilités après 4 mois de guerre. Et suivra la signature dès cette semaine d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran. Timing parfait pour le président américain qui célébrait ses 80 ans dans une grande soirée MMA à la Maison Blanche hier soir. Donald Trump qui vante un deal formidable qui apportera paix et sécurité au Moyen-Orient. Alors que c'est tourne cet accord ce matin, Margot Fodéré.
Aucun texte précis n'a été rendu public, mais chaque partie communique déjà sur certains volets de l'accord. Téhéran affirme d'abord que 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens vont être débloqués et que l'accord met fin immédiatement aux opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban. De son côté, le vice-président américain J.D. Vance assure sur Fox News que la navigation peut reprendre pleinement dans la région.
Cet accord implique l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz et bien sûr la levée concomitante du blocus naval que nous imposions à l'Iran.
Sur Truth Social, Donald Trump précise quand même que le détroit rouvrira une fois seulement l'accord entériné, une cérémonie de signature étant prévue ce vendredi à Genève. Et puis autre point évoqué publiquement par Washington, l'abandon du programme nucléaire iranien. Pourtant là-dessus, rien n'est acté, prévient Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française.
Le nucléaire va être très compliqué à régler. Et d'ailleurs, Barack Obama, qui était le seul à avoir réussi à faire signer un accord du pouvoir iranien en 2015, a rappelé que des mois de négociations ne suffiront sans doute pas à régler ce sujet qui traîne depuis des décennies.
En tout cas, si l'Iran présente des mesures claires et vérifiables sur son programme nucléaire, les Européens aussi se disent prêts à lever leurs sanctions. C'est ce qu'affirment le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Italie dans un communiqué commun.
Et avant Genève, vendredi, la suite des discussions se joue dès cet après-midi à Évian, en Haute-Savoie, au sommet du G7 organisé par Emmanuel Macron. Donald Trump est attendu dès la fin de journée. Et on vous retrouve sur place pour BFM Business. Hugo Babet, ce protocole d'accord pour la paix au Moyen-Orient va bien évidemment occuper toutes les discussions aujourd'hui.
Oui, la guerre au Moyen-Orient, c'est la priorité pour tous les dirigeants attendus aujourd'hui à Évian. Sur la table du G7, trois enjeux principaux. La réouverture du détroit d'Ormuz, je cite, urgente, inconditionnelle et maintenant dans la durée, avec l'appui de la mission internationale lancée par Paris et Londres. Ensuite, un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran. Et enfin, un cessez-le-feu robuste et durable entre Israël et le Liban. Dans la suite du programme, trois réunions économiques. Une première sur les déséquilibres mondiaux et le commerce. Des gages de Donald Trump sont attendus sur le libre-échange et de possibles exonérations de produits européens, même si le président américain a encore rappelé ce matin que les droits de douane sur les vins français s'appliqueraient à 100% tant que la taxe GAFA serait en vigueur. Une deuxième réunion sera ensuite pour s'accorder sur un texte pour se défaire de la dépendance aux terres rares chinoises, diversifier les pays producteurs et sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Et enfin, une troisième réunion très importante sur l'intelligence artificielle entre les chefs d'État et les PDG d'OpenAI, de Google DeepMind et d'Anthropic pour apaiser les tensions et tenter de trouver des convergences au sein des pays du G7.
Merci Hugo Babet à Evian pour BFM Business. Et puis l'actualité des entreprises à 8h33 ce matin avec Renault d'abord qui continue d'accélérer dans la défense. Le constructeur s'associe à Thales pour développer un prototype de véhicule terrestre multi-mission. Il s'appelle Ford Troupe et il intègre des solutions technologiques de Thales avec l'idée d'en faire un poste de commandement mobile. Et puis Saint-Gobain qui annonce à l'instant céder ses activités de distribution en Scandinavie pour 1,5 milliard d'euros.
Il est 8h34 sur BFM Business et sur AMC Life, l'actualité internationale avec Mathilde Chaminade. Qu'est-ce qu'on lit dans la presse ?
D'Ormuz qui est à l'honneur. Déjà dans Bloomberg, avec l'annonce du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran qui prévoit la réouverture du détroit ce vendredi, on apprend notamment que la plupart des armateurs s'interrogent et cherchent par tous les moyens à obtenir plus d'informations, notamment sur la possibilité d'un péage pour passer le détroit, et qu'ils se méfient parce que vendredi est encore loin et qu'ils ont déjà connu de nombreux faux départs au cours de ce conflit. Mais un métanier veut y croire, coincé depuis 3 mois dans le golfe Persique, il s'est mis en marche ce matin en direction du Détroit comme un symbole d'espoir. Mais du côté du Wall Street Journal, on est beaucoup moins confiant. La une est aussi consacrée au protocole d'accord, mais sous un prisme moins optimiste. L'article relate notamment les déclarations du responsable iranien Mohamed Khalibaf, qui laisse planer la menace de quitter entièrement les négociations si les États-Unis n'arrivent pas à empêcher Israël de continuer sa campagne contre le Hezbollah libanais. Et puis l'autre gros sujet, c'est l'anniversaire de Donald Trump qui fait la une du FT, du Financial Times ce matin. Le président a fêté donc ses 80 ans, comme le disait Léo, avec une soirée de MMA à la Maison-Blanche. Il a aussi au passage acheté 50 000 $ d'actions du championnat UFC, dont de nombreux athlètes participaient au combat. Des combattants qui recevront d'ailleurs des bonus en crypto-monnaie de la part de l'entreprise de crypto-monnaie de la famille Trump, World Liberty Financial. Enfin, alors que les chefs d'État commencent à se mettre en route pour la France pour le début du G7 aujourd'hui à Évian, le quotidien suisse Le Matin fait l'état des lieux des manifestations anti-G7 qui ont eu lieu hier à Genève. 20 000 manifestants, aucun blessé. On apprend aussi que les manifestants No G7 français ont été dissuadés de manifester du côté français du lac Léman à Évian.
Il est 8h35, la bourse. Et c'est Max, ça sent l'ouverture en fanfare.
Plus 1,4% pour le CAC 40 en préouverture, plus 1,5% pour l'Eurostoxx 50 qui vendredi a touché son record historique. C'était le premier record depuis le mois de février. L'Europe qui sous-performe très clairement depuis le début de ce conflit reprend des forces. Déjà vendredi, c'était une belle séance en Europe. L'Europe qui avait surperformé Wall Street. Et là, ça devrait plutôt bien se passer en préouverture avec des grands indices qui gagnent plus de 1% à l'exception du FTSE à Londres. Et oui, puisque vous avez un indice qui est riche en valeur pétrolière et forcément ce baril de pétrole ce matin qui est à $84 va peser à l'ouverture sur les groupes pétroliers, parapétroliers, typiquement Total Energy, c'est quasiment 4% en préouverture. Total qui était l'un des grands vainqueurs du CAC 40 depuis ce début de l'année, forcément devrait faire grise mine dans les prochaines heures avec cette détente des cours du pétrole. À l'inverse, le luxe est en belle hausse en préouverture, idem pour le secteur bancaire qui sous-performait depuis le début de cette guerre. Du côté des cours du gaz, vous avez un TTF, donc c'est la référence en Europe, qui est à 44 €. C'est une baisse de 5%. Là aussi, pour rappel, on était à 30 € fin février. On était monté au-delà des 60 € au mois de mars. Et puis ce matin en Asie, c'était du vert vif également, avec typiquement la bourse de Tokyo qui a gagné quasiment 4,5% ce matin.
Dans un instant, est-ce que le pétrole va revenir rapidement vers les $60 le baril? Est-ce que l'opération SpaceX sur souscrite au moins 4 fois, c'est assez? Est-ce que c'est normal qu'Anthropic coupe les accès à l'ensemble des noms américain? On voit ça avec nos invités du Club de la Bourse, Wilfried Galland de Montpensier Barbevel et Frédéric Loisel de chez Caro Capital. À tout de suite.
Good Morning Market, le Club de la Bourse.
Il est 8h40 sur BFM Business et sur AMC Live. On est avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur bonjour. Général adjoint de Montpensier Arbevel, et avec Frédéric Loisel. Bonjour, gérant bonjour. De portefeuille chez Caero Capital. Je commence avec ce deal. Alors, pour la bourse, on y croit, puisqu'on s'attend à une ouverture en fanfare. Etienne, avec plus de 1% de hausse du côté parisien. Frédéric Loisel, quand vous regardez l'accord qui a été annoncé, alors on n'a pas les détails. Chacun raconte un peu sa version des faits entre Américains et Iraniens. Ouais. Vous avez envie d'y croire comme les marchés ou vous dites j'attends un peu? J'ai été suffisamment déçu?
Non, on observe effectivement avec satisfaction, notamment sur les marchés obligataires, une vraie détente. Donc ça, c'est intéressant, sur le pétrole également. Après, on suit une séquence de 2 mois de stop and go permanent. Donc il va falloir véritablement voir et suivre sur les 2 mois qui s'annoncent, sur les 60 jours de négociations, sur des sujets qui sont,
sur le nucléaire,
qui sont toujours pas réglés, effectivement, le contrôle du programme de l'Iran et évidemment ce qu'on fait du stockage. Donc il y avait eu pas mal de propositions qui avaient été mises sur la table, notamment à l'intervention de la Russie pour le lieu de stockage. Donc on est content parce qu'effectivement le MOU qui était le memorandum of understanding comme on dit en bon français a été négocié âprement. Après les points techniques sont toujours en suspens.
C'est un accord pour une future négociation, Wilfried?
Oui, c'est un accord dont Donald Trump avait absolument besoin, d'abord parce que c'est la Coupe du Monde aux États-Unis et donc il fallait absolument qu'il puisse intervenir.
Et son anniversaire.
Et c'est son anniversaire. C'est la Coupe du Monde qui va se terminer le 19 juillet et donc il va avoir besoin pour la finale de ne pas être un pays en guerre. Le 4 juillet, on a les cérémonies du 250e anniversaire des États-Unis. Là aussi, c'était extrêmement important pour lui, beaucoup plus que préparer les midterms. C'était important pour lui d'apparaître comme étant celui qui a mis un terme, en tout cas, à cette phase-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on passe dans une autre phase. Même si on peut avoir des doutes sur le côté pérenne, on passe dans une autre phase, une phase où véritablement, c'est d'abord et avant tout les diplomates qui vont parler, au moins pendant probablement 2 mois, et où la crainte numéro 1 de l'économie mondiale, qui était d'avoir une espèce de thrombose définitive au niveau d'Hormuz, s'éloigne. On n'a pas dit qu'elle était complètement écartée, mais en tout cas, cette crainte-là, elle s'éloigne. Et on avait des statistiques qui disaient que à partir du mois de juin, on y était, on risquait effectivement des pénuries dans un certain nombre de pays parce que on atteignait la limite de certains stocks stratégiques. Donc, c'était très important de réouvrir au mois de juin le détroit d'Hormuz pour se redonner des marges de manœuvre. Ouais. C'est ce qui a été le cas. Maintenant, il faut voir comment est-ce que les négociations vont se dérouler, parce que c'est juste, en fait, 2 mois pour négocier.
Étienne, vous nous faites un petit point pétrole ?
$84 pour le Brent, $80 pour le WTI, c'est deux références sur des plus bas de 3 mois ou presque, sachant que, souvenez-vous, au début de ce conflit, le Brent était allé au-delà des $110. Donc on a quand même une baisse de $35 sur le baril de Brent. Pour rappel, juste avant cette guerre, donc fin février, on était à 70. Donc là, on est à 13 petits dollars de ces niveaux d'avant-guerre. Sur les cours du gaz, ça se détend très nettement également, quasiment 5% de baisse pour le TTF. Reste à voir maintenant comment ça va se véhiculer sur les prix à la pompe, parce que quand vous regardez les cours spot sur les prix de l'essence aux États-Unis, avant le début de cette guerre, on était quasiment à $2 le gallon. Ce matin, on est quasiment à $3. Donc, il y a encore du chemin à faire, typiquement pour les Américains, pour l'électorat de Donald Trump, parce que là, pour l'instant, à la pompe, ils voient toujours l'effet de cette guerre.
Frédéric Loisel, vous faites partie de ceux qui pensent que ça va se régler, c'est-à-dire qu'on rouvre le détroit et puis on a des pétroliers qui attendent et puis on y va, on fait couler le pétrole à flot, ou vous faites partie de ceux qui pensent que ça va prendre des mois de rétablir une situation normale?
Alors, ça peut être très compliqué, effectivement, ça va être plus compliqué qu'on l'anticipe de revoir effectivement les prix qu'on avait en dehors, juste avant le conflit. On était autour de effectivement $70. La BCE, par exemple, sur le pricing, sur l'anticipation les hypothèses de la croissance européenne, on était sur $65. Donc, on est encore très loin des niveaux qu'on avait juste avant ce conflit. Donc oui, nous, ce qu'on estime, en fait, c'est qu'on arrivera peu à peu, effectivement, à regagner, mais très lentement, sur ces cours d'avant-guerre. L'idée, en fait, qui est plutôt intéressante aujourd'hui à regarder, c'est effectivement sur les banques centrales et effectivement l'évolution, en fait, de ce conflit iranien sur la croissance en Europe et aux États-Unis. On est plutôt dans l'idée qu'effectivement on va avoir des banques centrales qui sont beaucoup moins agressives sur le contrôle des anticipations d'inflation. Et ça, pour le coup, c'est plutôt ce qu'on perçoit comme une nouvelle assez intéressante.
Le pétrole baisse, pas de future hausse des taux, Wilfried?
Alors, c'est effectivement en tout cas une menace de moins sur l'environnement monétaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le pétrole, c'est d'abord et avant tout un marché de demande. C'est pas un marché d'offre, en fait, à l'origine. Donc, si on a des chocs d'offres, évidemment, le pétrole réagit. Mais c'est véritablement la demande de pétrole qui pilote le prix. Et donc, toute la question sur ses coûts et sur le prix du baril, c'est: est-ce qu'on va vers un ralentissement ou pas de l'économie mondiale? Les derniers chiffres étaient plutôt bons, à la fois aux États-Unis et en Chine. On était sur des chiffres qui étaient plutôt pas mauvais. Et donc, effectivement, si on a cette tendance à l'accélération, ou en tout cas à la stabilisation de l'économie mondiale, on va probablement aller vers un baril de pétrole un peu plus élevé que celui qu'on avait au début de l'année, parce qu'on anticipait beaucoup plus de récession que ce qu'on anticipe aujourd'hui. Et on a un environnement économique et financier qui se met en place, si on n'a pas de choc supplémentaire, qui est plutôt favorable en ce moment. Donc c'est franchement une bonne nouvelle, je trouve.
Frédéric?
Oui, on a une vraie différence entre les États-Unis, où effectivement on a une résilience absolument incroyable de l'économie à tous les chocs. Donc ça, c'est dû, on le sait, à un élément qui est central aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe, à savoir la capacité à investir, notamment évidemment sur le secteur de l'IA. On investit beaucoup plus sur l'IA que sur la construction de bureaux aux États-Unis ou sur la construction d'infrastructures de transport. C'est juste pour donner, en fait, une échelle. En Europe, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. On était fragile juste avant le démarrage du conflit, on l'est encore plus aujourd'hui. Donc il y a une accélération, pas un effondrement des indicateurs, mais vous regardez tous les indicateurs de confiance, les indicateurs de conjoncture avancée, de production industrielle dans une grande variété de pays sur le continent, c'est une image qui est assez inquiétante. Donc l'idée qu'on se fait, nous, c'est qu'après la hausse des taux qu'on a eue la semaine dernière, qui est une espèce d'assurance en fait pour contrôler les anticipations. Oui. Et d'ailleurs, les taux ont très bien réagi.
C'est pas pour ouvrir le détroit d'Ormuz, quoi.
Non, du tout. Mais en revanche, en Europe, on risque d'avoir une situation très très dégradée, absolument.
C'est pour communiquer, quoi, pour dire qu'on est là.
Une hausse de taux de communication.
Oui.
Ouais. Ouais. Mais les taux ont bien réagi, hein. Donc c'est l'essentiel.
Il dit c'est triste, Wilfried. Il dit c'était une hausse triste.
Bah oui, c'est une hausse triste parce qu'en fait, on a l'impression que la BCE s'est mise elle-même dans un espèce de
d'obligation. Ouais.
Voilà, en disant de toute façon, j'ai tellement communiqué que j'ai pas le choix. Même si quand on écoute bien les différentes communications, on sent bien qu'il y a pas non plus une conviction folle.
Limité quand même. Hein.
Oui. Oui, mais enfin bon, on sait très bien que pour qu'il y ait véritablement des dissensions à la BCE, ça veut dire qu'ils se sont envoyés des cendriers à la figure. Donc là, voilà.
Non, moi je dirais qu'on est un peu méchant avec elle. Alors effectivement, il y a un narratif qui aujourd'hui consiste à faire passer cette hausse sur la liste noire de toutes les hausses qu'il y a eu dans l'histoire de la BCE, celle de 2008.
La liste des erreurs, quoi.
Ouais. Mais ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont un mandat exclusif et unique, en fait, contrairement à la Fed. Et encore une fois, en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent des taux directeurs dans l'économie, donc les prêts à la consommation, les prêts aux entreprises en Europe. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent également des taux longs, donc en fait le financement des États, le financement hypothécaire. Et là, pour le coup, les marchés obligataires ont salué. Donc en fait, quand on salue dans un marché obligataire, c'est qu'on baisse les taux longs.
On baisse les taux. Ouais. L'autre, à part les taux, il y avait quand même un gros événement la semaine dernière, donc c'était l'IPO du siècle, oui. Avec SpaceX. Est-ce qu'on peut dire à la fin que c'était réussi? Vous dites quoi, vous, Étienne?
C'est quand même plutôt bien, très très bien. Le titre a gagné 30% dans les premières minutes vendredi. Finalement, on était à plus de 19% à la clôture. C'est du vert quand même. Il faut que la première séance soit dans le vert. Bon, maintenant, reste à voir ce que ça va donner aujourd'hui et dans les prochaines semaines, hein, sachant que, pour rappel, certes, ils ont levé 75 milliards de dollars, mais il y a encore une fenêtre d'ouverture pour 10 à 11 milliards sur les 30 prochains jours. Donc, il y a encore du papier qui va arriver. Est-ce que le marché va encore réussir à l'absorber? Est-ce que l'euphorie autour de SpaceX sera encore présente dans 10 jours, dans 15 jours ou dans 3 semaines? Pour l'instant, la question reste ouverte. Vous avez eu 350 milliards de demandes, ouais, dont 100 milliards rien que sur la partie retail. Ce sont des chiffres, pour l'instant, qui ne sont pas officiels de Bloomberg, sachant qu'il y a eu tellement de demandes que concrètement, si vous souhaitez 100 euros, vous n'avez pas mis 100 euros. Vous avez mis 200, 300, 400 parce que vous savez très bien que vous n'allez pas être servi. Donc en fait, sur ces 4,6 fois la demande, au final, il y avait beaucoup moins, puisque en fait, à chaque fois, ça a été sursouscrit parce que vous saviez très
bien
que vous n'avez pas
tout à voir.
Donc
c'est ça le sujet, Wilfried, c'est pas tant que ça en fait.
En fait, c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que entre 4 et 5 fois de sursouscription, alors oui, c'est bien, hein, c'est formidable. Moi, j'ai regardé un peu l'histoire dans des IPO un peu similaires. Facebook, c'était Facebook, c'est 2012, hein, donc Facebook, c'était 20 fois. Snowflake, beaucoup plus récent, hein, 2020, c'était évidemment la folie du logiciel. Là, on était à 120 fois le volume offert. Donc, c'est bien de faire 4,7 fois. Hein, c'est
avec des ouvertures au retail comparables
ou... Avec des ouvertures au retail qui étaient plus faibles sur Snowflake et qui étaient à peu près comparables sur Facebook. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait Facebook. Hein, maintenant, ça s'appelle Meta, mais à l'époque, ça s'appelait Facebook. Donc, c'est un succès, clairement. L'IPO est un succès. Il va falloir attendre parce que tout a été fait dans les structures, on en a beaucoup parlé, pour que la demande soit d'une certaine manière obligatoire. Quand vous avez une intégration dans le Nasdaq, ouais, moins de 15 jours après, quand vous êtes de la gestion indicielle, et on sait que la gestion indicielle c'est extraordinairement important, vous êtes obligé d'acheter quasiment tout de suite. Donc, en fait, il faut attendre un petit peu de voir comment est-ce que la poussière va retomber autour de ce dossier. Ce qui va les aider aussi, c'est le fait qu'on a beaucoup de turbulences autour d'Anthropic et donc c'était une concurrence potentielle sur le spatial. Là, finalement, on se dit peut-être que le grand gagnant une nouvelle fois, ça va être Elon Musk. Donc peut-être que ça va l'aider. Attendons un petit peu d'avoir un peu plus de visibilité que la première séance.
Frédéric Loisel, comment vous avez regardé l'IPO de SpaceX?
Compte tenu des niveaux de valorisation, même avec un carnet d'autres à 4 ou 5 fois, c'est une extraordinaire performance, puisqu'effectivement, vous parliez des IPO précédentes, mais on n'était pas sur ce niveau de valorisation extrême, en fait. Hein. Et c'est vraiment la patte de Musk, ça. C'est la fanbase de retail explique que, par exemple, sur Tesla, vous payez Tesla 300 fois les revenus annuels, en fait. Juste pour donner une idée... on est sur des niveaux de valo pour Alphabet à 20. Donc, on est les revenus annuels de SpaceX, c'est 20 milliards. Alphabet dégage des bénéfices de 143 milliards. Donc, on est sur un phénomène très particulier, en fait, concernant les entreprises de.
Voilà, c'est irrationnel, c'est de l'émotion, quoi.
Exactement. Les retail détiennent 40% de Tesla. Alors, c'est aussi un énorme confort pour un institutionnel. Vous savez que de toute façon, sur les boîtes de Musk, en fait, vous avez l'analyse financière classique qui s'applique peu.
Oui.
Alors après, il y a un calcul rationnel. Hein. SpaceX, vous en avez parlé tout le temps, en fait, c'est la capacité à envoyer et à saturer l'orbite basse et d'avoir un quasi-monopole dessus. Et donc derrière, en fait, ce que joue le marché également, c'est l'idée que, de toute façon, tôt ou tard, il va développer son propre mobile. L'idée, c'est Et donc la concurrence, effectivement, avec les compagnies télécom, c'est peut-être ce qui est peut-être...
Donc c'est pas Mars, c'est un réseau de télécom.
Il y a Mars, parce qu'il a là... C'est Jules Verne, Steve Jobs et le docteur Follamour à la fois, en même temps.
Oui, mais à la fin, c'est un réseau de télécom, quoi.
Mais à la fin, c'est un réseau de télécom.
C'est un peu moins de la main.
C'est moins de l'amour, non, mais c'est ça, en fait, que vous voyez derrière.
Il veut vraiment aller sur Mars, hein. Oui. C'est quelqu'un de plein de...
Parce que si c'est un réseau télécom, c'est pas les mêmes valorisations.
Non, c'est ça.
Absolument. Mais si vous avez le monopole, effectivement, sur... Imaginez que vous puissiez avoir sur votre mobile, en fait, une capacité à aller dans tous les pays du monde, ce que permet, effectivement, la connexion satellitaire, et non pas le changement, effectivement, d'opérateur à chaque fois que vous voyagez. Vous avez une capacité marketing colossale, en fait.
Ouverture dans une... Non, c'est la fin de l'émission dans 1:30. L'ouverture, c'est dans 7 minutes 20, le chrono. Ouverture, a priori, en fanfare. On a des bourses asiatiques, là, il y a Séoul, par exemple, qui a terminé en hausse de 5%.
Ah oui, bah alors là, c'est les semi-conducteurs. Hein. C'est vrai que vous avez quelques valeurs, une nouvelle fois, notamment du côté de SK Hynix et de Samsung, à chaque fois qu'ils font un petit peu la pluie et le beau temps. C'était du vert vif ce matin en Asie. Vendredi, les marchés européens avaient déjà commencé à acheter cet accord. Hein. On avait gagné 1,8% à Paris. L'Eurostoxx avait touché son record pour la première fois depuis le début de ce conflit. Là, en préouverture, plus 1,4% pour le CAC 40, plus 1,6% pour l'Eurostoxx 50, avec bien sûr les valeurs pétrolières, hein, parapétrolières, qui vont peser un petit peu sur la Bourse de Londres, hein, qui est très riche en valeurs pétrolières et minières, et dans une moindre mesure à Paris, avec Total Energy, qui va plomber un petit peu la tendance.
Sur les taux, ça s'est calmé aussi. Hein.
Moins 6 points de base pour le 10 ans français, qui revient sous les 3,6%. Le Bund revient sous la barre symbolique des 3%. Bon, néanmoins, 4, 5, 6 points de base de détente sur ces taux longs, c'est pas énorme. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une baisse un peu plus importante au vu de la baisse des cours du pétrole.
C'est bien.
Prenons ce qu'on nous donne.
On prend.
Sur les taux, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, Wilfried Galland et Frédéric Loisel, d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, l'ouverture Good Morning Market avec Étienne Brac. On se retrouve demain à partir de 7h30 depuis Euro Satori. L'événement, évidemment, autour des questions d'armement. On sera notamment avec le directeur général de KNDS. On parlera de l'IPO à venir. À demain. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brac.
Deuxième partie de Good Morning Market jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, vous retrouverez les experts avec Raphaël Legendre. Dans un instant, toute l'information économique du jour avec Léo Dumas. On sera notamment depuis Washington pour revenir donc sur Donald Trump qui finalement plie, hein, d'une certaine façon à l'Iran avec cet accord. En tout cas, les marchés apprécient très largement. Moins 5% ce matin pour le Brent qui revient à 83$. 80$ pile pour le WTI. C'est une première depuis le mois de mars. Nette détente du marché obligataire, moins 6 points de base pour le 10 ans français à 3,59 et puis nous le verrons dans un instant. Les marchés actions devraient également très bien accueillir cette nouvelle. En tout cas, en préouverture, on avait une hausse de plus d'1% pour les grands indices européens. Dans cette émission, nous reviendrons bien sûr sur cet accord avec Florian Yelpo qui sera en direct avec nous depuis Lombard-Odier-IM à Genève, Alexandre Baradez depuis IG pour revenir sur les niveaux techniques, sachant que l'Eurostoxx 50 a touché vendredi son record historique pour la première fois depuis le début de ce conflit. Et puis en début d'émission, Stéphane Camille de Claresco Finance nous donnera un petit peu ses clés, en tout cas comment aujourd'hui il voit les choses. Son portefeuille gagne plus de 50% depuis le début de l'année, c'est l'une des meilleures performances et de loin sur les fonds actions sur la place de Paris. Et pour cause, le secteur de la tech et des semi-conducteurs profite très largement à son fonds innovation. Oui, mais il n'y a pas que la tech dans la vie, nous verrons cela dans un instant. Comment arbitrer aujourd'hui dans ce contexte si volatile? Ça sera l'un des points qui sera abordé à partir de 9h05. En attendant, il est quasiment 9h et donc toute l'information économique du jour, c'est avec Léo Dumas.
Good Morning Market, Le journal.
Et donc, accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Et cette fois, ce sont les deux parties qui l'annoncent, Washington et Téhéran, qui sont enfin d'accord pour mettre fin à la guerre après presque 4 mois de conflit. L'arrêt des hostilités concerne tous les fronts, le Liban y compris, selon les Iraniens. Alors, il s'agit pour l'instant d'un protocole. Il doit être signé vendredi à Genève et il doit permettre ensuite d'ouvrir 60 jours de discussion afin de trouver un accord définitif. Et Antoine Delard, on vous rejoint, correspondant BFM Business à la Maison Blanche, où Donald Trump est triomphant et se félicite hier soir d'un formidable accord.
Oui, d'abord, on peut dire que le timing de cette annonce est parfait pour Donald Trump. Pile le jour de ses 80 ans, il ne pouvait pas rêver d'un meilleur cadeau d'anniversaire. Hier soir, il a donc pu profiter de la grande fête organisée à la Maison Blanche avec ce gala de MMA, un sport de combat pour projeter une image de force et de puissance. Tout cela serait tombé complètement à plat s'il était resté embourbé dans des négociations sans fin. Alors, le président n'a pas donné beaucoup de détails sur ce deal, mais il annonce que le détroit d'Ormuz sera rouvert dès la signature de l'accord vendredi et que ensuite, le pétrole va couler à flot. Ça, c'est évidemment très important pour lui. Il a promis aux Américains que les prix de l'essence allaient rapidement baisser une fois la guerre terminée. Trump, qui se montre par ailleurs triomphant, il parle d'un deal formidable qui apportera la paix et la sécurité dans la région. De nombreux présidents ont essayé. Ils ont tous échoué avant moi, dit-il. La réalité est pourtant bien plus modeste. Sur le nucléaire, rien n'est réglé. Tout est renvoyé à des négociations ultérieures. Et il reste encore beaucoup de travail à ce niveau. Pour le moment, Trump a simplement réparé un problème qu'il avait lui-même créé, le détroit d'Ormuz, qui, rappelons-le, n'était pas fermé avant qu'il ne lance sa guerre contre l'Iran.
Antoine Lard, à Washington, où 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens s'apprêtent à être débloqués, selon les médias à Téhéran, dans le cadre aussi de ce protocole. 12 autres le seront plus tard au cours des discussions qui vont suivre la signature de vendredi à Genève. Dans le même temps, il y a Paris, Londres, Rome et Berlin qui, dans un communiqué commun, se déclarent disposés aussi à lever des sanctions contre l'Iran, dans le cas où il y aurait en face des mesures claires et vérifiables sur le programme nucléaire de Téhéran. Et à quelques heures du G7 d'Évian, Emmanuel Macron annonce ce matin que la mission maritime internationale initiée par la France et le Royaume-Uni est prête à accompagner la réouverture d'Ormuz. Emmanuel Macron, qui est aussi menacé ce matin par Donald Trump, le président américain, qui lui est sur le point de décoller vers la France et qui, dans une interview au New York Post, annonce la couleur. Ce sera 100% de droits de douane sur les vins français si Paris ne supprime pas sa taxe GAFAM. Donald Trump, qui est attendu autour de 17h à Évian pour une bilatérale avec Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Léo Dumas. Dans un instant, on va regarder la séance en cours. Très instructif ce qui se passe avec les valeurs cycliques qui se reprennent très nettement. Idem pour le secteur du luxe. Juste avant, Raphaël Lejoindre vient de nous rejoindre en plateau. Raphaël, que l'on retrouve à partir de 9h30 pour les experts.
Oui, pour une spéciale souveraineté ce matin. Souveraineté numérique, souveraineté géopolitique, souveraineté militaire. On va évidemment revenir sur la claque infligée par Anthropic à toute l'Europe ce week-end. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les voies et moyens de l'Europe pour réagir à ce kill switch, hein, pour ne pas retomber dans les ténèbres numériques, à la bonne volonté de l'administration américaine. On reviendra évidemment sur le G7 avec l'annonce de la nuit, l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, pour voir si les questions économiques ne vont pas passer finalement au second rang. Tous les patrons de l'intelligence artificielle côté américain seront présents à Evian aujourd'hui et dans les prochains jours. Ce sera quand même intéressant à suivre. Et puis le dernier point, c'est l'ouverture aujourd'hui du salon Eurosatory, bien sûr le plus grand salon de la défense terrestre, un salon de tous les records cette année, on verra pourquoi. Voilà pour le programme, rendez-vous à 9h30.
En attendant, il est 9h03 et le CAC 40 tape à la porte des 8500 points. 8483 points, c'est une hausse de 1,6%, plus 1,6% également pour l'Eurostoxx 50 qui est sur un record historique au-delà des 6200 points, 6285 points. Si vous regardez le CAC 40, GR, dividende réinvesti, vous êtes au-delà des 28000 points et là aussi, c'est une première. Donc le CAC 40, pas traditionnel, hein, celui qui intègre les dividendes, est sur un plus haut, il gagne 5% depuis le 1er janvier. Stellantis, Saint-Gobain et Renault sont les trois plus fortes hausses, trois titres qui gagnent plus de 5%. Le secteur du luxe également mène la danse. LVMH plus 4,5%, 533 euros, 1768 euros pour Hermès qui gagne plus de 4,3%, 3,8% de progression pour Kering à 278 euros. À l'inverse, Total Energy ferme la marche. Le titre est de loin la plus forte baisse ce matin à l'ouverture, moins 5%. Et pour cause ce matin, le baril de pétrole, le Brent est à 83 dollars, 80 dollars pour le WTI. Forcément, vous avez des
des prises de bénéfices marquées sur l'ensemble du secteur pétrolier et parapétrolier. Dans le SBF 120, des valeurs comme Vallourec, Véridien cèdent un peu plus de 2%. L'euro-dollar retrouve la barre symbolique des 1,16 pour la première fois depuis le début du mois, 1,1604. Quand sur le front des taux, vous avez une nette détente, que ce soit les taux courts, mais également sur les taux longs. Le 2 ans français perd 7 points de base, idem pour le 2 ans allemand à 2,57. Le 10 ans allemand repasse sous la barre symbolique des 3% à 2,96, 3,58 pour le 10 ans français. L'once d'or progresse de plus de 2% au-delà des 4 328 $. Très courte pause, on se retrouve dans un instant avec les équipes de Claresco Finance pour revenir notamment sur les valeurs liées à la tech, mais pas que, avec aujourd'hui Stéphane Camille qui est gérant de portefeuille chez Claresco Finance. Son fonds gagne 55% depuis le 1er janvier, c'est de loin la meilleure performance à Paris. Oui, mais comment aujourd'hui on arbitre un portefeuille quand on est sur un gain de plus de 50%? Est-ce qu'il faut encore accompagner les valeurs liées aux semi-conducteurs? Élément de réponse dans quelques minutes. Et puis ensuite, Florian Noël-Pau nous donnera sa vision. Comment aujourd'hui il voit cet accord qui devrait être signé vendredi à Genève entre l'Iran et les États-Unis? Est-ce que le marché ne s'emballe pas un petit peu trop à court terme, sachant que le sujet du nucléaire iranien n'est toujours pas résolu? Ça sera l'une des questions qui sera adressée dans cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Etienne Brac.
Et les 8500 points qui sont là à la Bourse de Paris, ça y est, plus 1,8%. Nous sommes plus qu'à 142 petits points du record historique touché en début d'année. Dividende réinvesti, le CAC 40 est sur un plus haut historique. Idem pour l'Eurostock 50 qui gagne 1,7%. Du côté de Francfort, le DAX est également nettement dans le vert, plus 1,8% au-delà des 25 000 points. Là aussi, ce seuil symbolique est retrouvé. Le DAX qui était très en retard depuis le début de ce conflit. On était sur un zéro ou presque depuis le 1er janvier.
Dans un instant, avec Florian Noël-Pau, nous reviendrons sur les tenants et les aboutissants de cet accord qui a donc été annoncé par Donald Trump juste avant. Petit coup d'œil sur les actions avec Stéphane Camille, gérant de portefeuille chez Claresco Finance. Bonjour Stéphane, merci de nous accorder quelques minutes ce matin pour regarder un petit peu ce qui se passe sur la cote depuis le début de l'année, avec, on en parle tous les jours sur ce plateau, Wall Street qui surperforme très clairement l'Europe depuis le 1er janvier, idem pour les indices asiatiques, et pour cause, la tech mène très clairement la danse, à commencer bien sûr par le secteur des semi-conducteurs. Comment vous aujourd'hui, en tant que gérant action chez Claresco Finance, vous arrivez à arbitrer un contexte qui est quand même assez difficile, dans le sens où c'est vraiment un pan de la cote qui tire la performance depuis le 1er janvier?
Pour moi, c'est assez clair. Il est très difficile de passer à côté des semi-conducteurs parce que c'est, je dirais, là où passent toutes les données qui sont l'élément indispensable pour faire tourner les outils actuels, les outils, les agents, ce qu'on appelle les agents IA actuels, et pour faire travailler l'intelligence artificielle. On a besoin de données et les données passent par les semi-conducteurs. Elles sont à la fois collectées, elles sont traitées, elles sont computées par les semi-conducteurs. Donc c'est stratégique.
C'est stratégique. Alors bon, vous avez fait le choix de ces semi-conducteurs en début d'année. Ça vous a profité quand vous voyez un secteur des semi-conducteurs, l'indice de Philadelphie, qui a pas doublé, mais presque. On était quand même sur une hausse de 80% entre le mois de mars et là, les niveaux de début juin. Est-ce que vous avez encore envie d'accompagner le trend, sachant qu'on voit quand même une certaine effervescence, des mouvements très erratiques, quand vous voyez ce qui se passe sur SKNX ou d'autres valeurs en Asie qui sont capables de faire du plus 10, moins 10 d'un jour à l'autre. Est-ce que vous êtes toujours confiant aujourd'hui sur ces valeurs ou non? Vous avez envie un petit peu d'écréter et d'alléger ces lignes en portefeuille?
Une hausse ou un cycle n'est pas une ligne droite. Il y a des micro-cycles qui sont des phases de baisse, des phases de correction. Mais pour moi, la tendance est toujours haussière. Je pense que le cycle est loin d'être terminé. Tant que le cycle IA est en place, je pense que les semi-conducteurs vont jouer une part très très importante de ce cycle. Donc, je dirais que sur le long terme, oui, il faut être investi dans les semi-conducteurs. Il y a des types de semi-conducteurs qui seront plus ou moins stratégiques, donc plus ou moins intéressants en termes d'investissement, ça c'est clair. Mais je reste convaincu le secteur des semi-conducteurs reste un secteur clé. Oui.
En termes de diversification, comment aujourd'hui vous arrivez à diversifier un petit peu votre portefeuille pour ne pas être que uniquement sur ce segment des semi-conducteurs, Stéphane Camille?
Alors, il y a quand même au-delà des semi-conducteurs, il y a des sociétés qui vont profiter de cette effervescence autour de l'IA et qui vont utiliser l'IA pour améliorer, par exemple, soit leur recherche et leur développement. Je pense aux sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques qui vont probablement accélérer la découverte de nouveaux médicaments ou de nouveaux traitements. Ces sociétés-là donc vont en profiter. Donc ça, je suis partie prenante dans ce genre d'investissement. Et puis toutes les sociétés qui vont bénéficier de l'IA pour des gains de productivité. Je pense à quelques industriels, je pense aux financières par exemple. Ça, c'est des secteurs qui vont profiter de l'IA.
Le secteur des softwares, aujourd'hui, le marché est très divisé hein, sur les logiciels en bourse. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez que ce secteur peut être gagnant, perdant ou non? Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse à cette question en ce qui concerne l'IA.
Il y aura toujours besoin de logiciels, ça c'est clair, parce que pour faire tourner un semi-conducteur, il faut un software. Maintenant, où est-ce qu'il sera situé? Est-ce que ce seront des boîtes indépendantes? Est-ce que on le voit notamment avec Nvidia, le software se rapproche de plus en plus et intègre de plus en plus le semi-conducteur. L'arrivée des LLM et des SLM, bien sûr, sont en train de perturber le secteur. On a un manque de visibilité pour l'instant. Il y aura beaucoup de perdants, je pense. C'est la raison pour laquelle je suis pas très très investi. Je fais très attention. On a eu un rebond technique là dernièrement. Je pense que c'est encore très difficile de trier, je dirais, les valeurs, les sociétés qui vont sortir de cette partie disruptive, de celles qui vont échouer, qui risquent d'avoir de gros problèmes.
Il y a un an et demi sur les marchés, il y avait le moment DeepSeek, hein, c'est quand la Chine avait annoncé son modèle d'intelligence artificielle. Oui. On n'est pas aujourd'hui à l'abri d'un nouveau moment DeepSeek, alors pas forcément sur DeepSeek, mais sur d'autres technologies, notamment en ce qui concerne les semi-conducteurs, parce que quand on regarde aujourd'hui la performance sur les semi-conducteurs, elle se fait où? Elle se fait sur la bourse de Séoul, sur la bourse américaine. Néanmoins, la Chine est présente sur ce segment des semi-conducteurs. Est-ce que demain, on peut pas exclure est-ce que la Chine, elle disrupte un petit peu ce marché, soit avec des avancées technologiques, soit avec une capacité d'un seul coup qui est capable de challenger la production et qui, mine de rien, pourrait amener des marges à se tasser?
Absolument. Et l'arrivée de DeepSeek, en effet, était un pavé dans la mare, je dirais, parce que en fait, DeepSeek a prouvé, a montré qu'on pouvait utiliser un LLM de façon moins gourmande. Ce qui voulait dire ça nécessitait moins de capacité, moins de puissance de calcul. Et en plus, c'était open source. Il y avait ces deux aspects-là. Et le fait que ça nécessite moins de puissance de calcul, ça a quand même, à mon avis, perturbé le business model de Nvidia. Parce que jusque-là, les LLM classiques type ChatGPT, même Claude, utilisaient énormément de puissance de calcul et donc de puissance de microprocesseurs GPU que Nvidia fabrique. On a vu avec DeepSeek qu'il y avait moins de besoins. Ça veut dire qu'on a recours à des potentiellement soit à des GPU de génération plus ancienne, soit à des CPU. Et ça, c'est clair que ça peut provoquer à moyen terme, je dirais une faiblesse sur le business model de Nvidia et sur d'autres sociétés de semi-conducteurs US, puisque la Chine est en train de récupérer, de rattraper un retard qu'elle avait, qui était très important auparavant dans les semi-conducteurs. Mais elle est en train vraiment de récupérer ce retard. Et notamment aussi, elle est en train de dépasser même les États-Unis, par exemple, dans le domaine de la robotique. Donc, on pourrait voir, en effet, la Chine arriver très, très fort au niveau technologique dans les années qui viennent.
Et donc, aujourd'hui, il faut se diversifier sur les marchés chinois, des indices qui, depuis le début de l'année, ne font pas grand-chose. Si vous regardez Shenzhen, -0,5% depuis le 1er janvier, idem pour Shanghai, le Hang Seng perd même un peu plus de 4% là, depuis le début de l'année.
Oui, et ça, c'est probablement, à mon avis, C'est le marché qui décide. Je pense en effet que le marché chinois devient de plus en plus intéressant, et notamment la tech chinoise. Alors maintenant, c'est très difficile de jouer ça, parce que le marché chinois est compliqué. Il y a peut-être les ETF. Pour ma part, je trouve que c'est compliqué d'investir dans des titres en direct. Mais on peut le faire. Il y a des ADR qui existent. Là aussi, il y a des risques. Mais en tout cas, je pense que le marché chinois, oui, est intéressant. Et il faut regarder. On peut pas ne pas regarder le marché chinois actuellement.
Merci beaucoup Stéphane Camille de nous avoir accompagnés ce matin depuis Claresco Finance. Vous êtes en charge du fonds Innovation qui caracole donc en tête des performances depuis le début de l'année. 9h17 tout de suite, on va rejoindre Florian Yelpo qui nous attend depuis Genève. Florian Yelpo en charge de la macroéconomie chez Lombard-Odier IM. Bonjour Florian, le week-end a donc été un tournant en ce qui concerne donc la situation en Iran, avec donc Donald Trump qui annonce que les États-Unis vont signer un accord ce vendredi. D'ailleurs, ça va se passer à Genève. Les marchés actions ce matin achètent très clairement la nouvelle. Plus 1,7% pour le CAC 40, plus 1,6% pour l'Eurostock 50. Quand du côté de Wall Street, c'est également du vert en préouverture. Et puis surtout, l'élément marquant, c'est donc ce WTI, ce baril de pétrole américain qui revient pile à $80. Assez amusant de voir que le marché n'a pas vraiment perdu d'espoir en ce qui concerne cet accord. Encore vendredi, on avait une belle hausse en Europe, et que là, cet accord fait encore son effet. Pour l'instant, le marché n'a pas envie de vendre la nouvelle, loin de là.
Exactement. Bonjour à tous. Bonjour Étienne. C'est effectivement le point du jour, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur une situation, vous savez, ce fameux mantra d'investissement, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc c'est-à-dire qu'on aurait déjà pricé, anticipé, intégré dans le prix des actifs ce qui s'est passé, ce qui est la rumeur elle-même, c'est-à-dire d'un véritable accord Iran et États-Unis. Et dans ce contexte-là, une baisse du prix du pétrole, progression du prix des actifs cycliques, et notamment les actifs qui ont le plus souffert. En fait, on continue à voir le marché acheter la rumeur, et on comprend en fait pourquoi. On a effectivement la perception qu'il va se passer quelque chose, mais encore une fois, oui, un accord a été signé. On parle d'une potentielle réouverture ce vendredi, du Détroit, mais il y a encore un grand nombre d'incertitudes en fait qui entourent cette possibilité. Ce n'est pas la guerre en Iran qui pose problème au marché, quelque part, de façon très cynique, c'est la réouverture du Détroit d'Hormuz. Et cette réouverture, techniquement, technologiquement, en fait, elle peut prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Donc, en fait, on est encore sur de la rumeur et pas encore sur de la nouvelle. Simplement, le marché continue de saluer la perspective de cette amélioration. Le plus important, c'est le Japon, hein, 5% cette nuit. C'est vraiment une performance très forte qui montre encore qu'il y a encore, en fait, implicitement dans le prix des actifs, cette prime Hormuz qu'on entretient maintenant depuis quasiment 3 mois.
L'Europe souffre en bourse depuis le début de ce conflit. Ce matin, vous avez toutes les valeurs cycliques qui se reprennent d'une façon assez impressionnante. Typiquement, des valeurs comme Saint-Gobain, plus 6%, plus 5% pour Renault, ou encore pour Stellantis. Safran gagne un peu plus de 5%. Est-ce que demain, la signature de cet accord pourrait permettre une certaine forme de rotation sectorielle sur le marché, et en quelque sorte un petit peu le retour de l'Europe, hein? Quand on regarde le DAX depuis le début de l'année, il est à zéro. Le CAC 40, si vous prenez en compte les dividendes, on est à plus 4, plus 5%. Bref, c'est une maigre performance par rapport à certains indices asiatiques ou par rapport à Wall Street.
Oui, absolument. Ce serait le cas idéal. C'est-à-dire que aujourd'hui, le momentum du marché, vous venez d'en discuter, est très concentré sur l'IA, d'accord? Ce qu'on appelle le portefeuille momentum, c'est-à-dire le portefeuille composé des actions qui ont fait le mieux au cours des 6 derniers mois, disons. Ce portefeuille-là est très exposé, en fait, à l'IA. Pas tant que ça à ce qu'on appelle la value, pas tant que ça à ce qu'on appelle la croissance. Donc, c'est vraiment un effet sectoriel pur. Pour qu'on puisse avoir une meilleure participation de l'ensemble du marché à la hausse, on a besoin justement de retirer ce qui aujourd'hui a semblé poser problème à ces valeurs plus cycliques, qui est justement le prix du pétrole. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce qui fera les 12 prochains mois de performance, c'est la productivité, l'IA, la technologie, encore une fois, et les investissements qui vont avec, ou est-ce que c'est la vieille Europe qui pourrait voir ses marges s'améliorer parce que prix du pétrole plus avantageux, premier élément, et puis peut-être aussi un effet indirect productivité qui est attiré de l'IA. Aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est qu'on devrait continuer à avoir une progression du marché global. Simplement, on devrait gagner en ampleur, gagner en profondeur. On le rappelait récemment, vous n'avez que 55% des titres qui sont aujourd'hui au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Donc ça vous dit à quel point il y a de la réserve de valeur dans le marché aujourd'hui.
Et l'événement de cette matinée, donc, c'est le pétrole, hein, qui perd 5%. $80 pour le WTI, $83 pour le baril de Brent. Les cours du gaz en Europe sont également sur une très nette baisse, moins 5,5% pour le TTF à 44 € le mégawattheure. Il nous reste 2 minutes, Florian Helpo, pour parler de l'autre événement de la semaine. Il s'agit bien sûr de la première réunion de Kevin Warch en tant que président de la Fed, de la Banque Centrale Américaine. Conférence de presse qui va se tenir mercredi soir. Qu'attendez-vous de cette réunion? Là aussi, ça sera difficile pour les banquiers centraux. Il y a 10 banques centrales en tout qui se réunissent cette semaine avec ces cours du pétrole qui vont un petit peu déstabiliser les anticipations d'inflation.
Absolument. Ce qui est particulièrement intéressant, ce sera d'observer à quel point dans les zones où il y a aujourd'hui beaucoup de croissance, cette inflation énergétique a pu devenir de l'inflation tout court, c'est-à-dire une élévation globale du niveau des prix qui peut encore poser problème aux banquiers centraux. Côté Fed, on a un problème de disque dur, c'est-à-dire qu'on sait très peu de choses en fait de comment est-ce que Kevin Warch va opérer au sein de la Réserve fédérale. Il y a au milieu des 12 membres votants. Pourquoi c'est important? Parce que la principale contrainte qui pèse sur le marché actions aujourd'hui, ce sont les taux réels. Ces taux réels ont progressé très fortement cette année. Pourquoi? À cause d'Hormuz, à cause de l'inflation attendu, tiré de l'inflation énergétique. Donc, si les banquiers centraux nous disent, en fait, c'est un non-problème, on devrait voir un retour à la moyenne de ces anticipations d'inflation, alors pas besoin de monter les taux très fortement, alors on met une limite à la progression des taux, et ça, c'est un facteur très positif, notamment pour l'IA, notamment pour la croissance globale dans les actions.
Sachant qu'à court terme, Florent, bien sûr, ce sont les statistiques également qui vont permettre de voir un petit peu plus clair sur la stratégie de la Fed. On l'a bien vu au début du mois de juin avec les chiffres de l'emploi ou encore la semaine dernière avec les données de prix à la production.
Absolument, mais vous savez également que Kevin Warch n'est pas pour en fait ces statistiques. Hein. Il n'est pas pour la forward guidance, il n'est pas pour donner justement de la visibilité aux marchés financiers et aux investisseurs. Donc effectivement, on va avoir la mise à jour de ces données-là. On va pouvoir, alors elles sont probablement un peu caduques justement du fait de ce qu'on a annoncé ce matin, la réouverture d'Hormuz potentielle. Mais néanmoins, on va y lire combien d'inflation en plus lorsqu'on a 3 mois de choc pétrolier avec une progression des prix de 60% du prix du baril.
Merci beaucoup. Florian Helpo nous a accompagné ce matin depuis Genève en charge de la macroéconomie chez Lombard Odier IM. 9h24, le CAC 40 est donc sur une belle hausse, plus 1,7%, record du côté de l'Eurostock 50. L'Eurostock 50 au-delà des 6276 points et le CAC 40 qui est donc à la porte des 8500 points, seuil d'ailleurs qu'il a touché quelques minutes après l'ouverture. Bonjour Alexandre Baradel, chef analyste d'IG. L'Europe est donc en très nette hausse, plus 1,5% pour les grands indices européens, que ce soit à Francfort, à Paris ou donc pour l'Eurostock 50. Sachant que déjà vendredi, c'était une belle séance. Décidément, l'Europe tente de rattraper son retard.
Oui, effectivement, il y a un jump assez important du CAC 40, mais qui démarre déjà depuis jeudi. En fait, sur la séquence, on était jeudi matin quasiment dans la zone des 8100 points, et là, on a 8500 points ce matin, donc on a récupéré une très grosse partie finalement de ce que le CAC 40 avait perdu. Ce matin, aux alentours de 8500 points, c'est un niveau qu'on n'est pas observé depuis la fin février, début du mois de mars. Donc, on a quasiment effacé toute la partie de baisse sur le CAC 40, donc qui revient finalement à quasiment à ses niveaux d'avant-guerre, avec une énergie qui baisse de 5-6% pour le pétrole. Et surtout, on voit que c'est assez logique dans un contexte où le marché veut croire que ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est qu'on dans la répartition des secteurs qu'on voit ce matin, il y a quelque chose de très logique, qui est qu'on voit des valeurs industrielles prendre la tête des plus grosses performance du CAC 40, donc un des valeurs Saint-Gobain, le secteur auto également qui est très sensible à l'énergie, qui performe très bien. On a aussi toutes les valeurs de la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire les valeurs du luxe qui se comportent très bien également. Et de l'autre côté du spectre, toutes les valeurs qui ont servi un peu de refuge durant cette crise géopolitique, à savoir les télécoms par exemple, à savoir les services de collectivité aussi avec Engie, ou la consommation de base, vous trouvez du Carrefour notamment dans les plus fortes baisses. Voilà, c'est assez logique, on voit que le marché surexpose aux secteurs qui ont le plus souffert cet épisode. Alors après, la question effectivement désormais que le CAC est quasiment revenu sur ses sommets historiques, on a une centaine de points, grosso modo un des sommets historiques, c'est est-ce qu'on peut les franchir sur cette lancée? Ce qui est très clair, d'un point de vue du diagnostic en tout cas, c'est que ces 3 derniers mois, les marchés européens n'ont été sensibles quasi exclusivement qu'à la situation en Iran. Il y a très peu d'autres éléments qui ont influencé le CAC 40. C'est vraiment les questions d'énergie, les questions de taux, les questions de banque centrale qui ont façonné le sentiment des investisseurs. Donc, maintenant que la situation géopolitique, le risque semble s'éloigner, normalement, on a des éléments positifs pour le CAC 40. La seule chose, je pense, qui va... mais le problème, c'est qu'il faut un peu de durée pour ça. C'est de voir les effets réels sur l'économie. C'est-à-dire que les risques, ça, le marché les a anticipés pendant 2-3 mois. Maintenant, il se détend parce que l'énergie se détend. La question, c'est comment on va se sortir de ça d'un point de vue économique. Est-ce qu'on a juste éteint la lumière pendant quelques semaines et ça redémarre, ou est-ce qu'il y aura des traces un peu plus profondes dans l'économie? On rappelle qu'il y a beaucoup d'indicateurs, comme des PMI, comme des indices de confiance des consommateurs ou autres, qui sont vraiment affaissés depuis 3 mois. Donc la question, c'est est-ce que la situation actuelle va vraiment nous remettre dans le sens initial et dans les mêmes conditions qu'avant la guerre en Iran? Ou est-ce qu'il faudra un délai plus long, le temps que le pétrole arrive plus de manière plus fluide, le temps que vous voyez que les entreprises tournent la page, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu ça l'idée. Mais d'un point de vue de la sensibilité, c'est très clair que s'il y avait un élément qui bloquait le CAC 40 depuis 2-3 mois, c'est clairement la géopolitique. Donc si cet événement vient à se détendre, normalement c'est plutôt un signe relativement positif pour le CAC 40 à moyen terme.
Le CAC 40 dividende réinvesti, le GR, est sur un record historique, au-delà des 28 000 points. Sur le CAC 40 traditionnel, hein, on est allé à moins de 200 points d'un record historique. D'un niveau technique, là, on est sur des niveaux favorables ou pas, Alexandre ?
Oui, ben on le disait tout à l'heure, on est à moins d'une centaine de points, une centaine de points du record historique. Donc effectivement, ils n'ont pas grand-chose pour y aller. On voit que des indices un peu voisins comme le DAX, par exemple, aussi avaient des comportements assez similaires. C'est-à-dire que le DAX, il a marqué des records il y a quelques mois, on n'était pas très loin de ses records. Donc on voit qu'on se redirige vers ces niveaux-là. Et encore une fois, c'est vraiment la traduction que c'est vraiment la situation en Iran qui a freiné les marchés européens. Ça a tendu les taux souverains, ça a raffermi le discours des banquiers centraux, ça a même mis une hausse de taux sur la table du côté de la BCE. Donc effectivement, si la situation en Iran, et c'est là qu'il y a quand même une séquence qui va être à suivre, il faut réellement que l'accord soit signé, premièrement, ça on va le voir, que l'accord soit ensuite respecté par les parties, qu'il n'y ait plus d'échange pour que le pétrole durablement repasse sous les 80 dollars, pour que les taux se détendent durablement et pour que le discours des banquiers centraux se détende durablement. Quelques étapes encore à passer, mais si réellement on est en train de sortir de la crise iranienne, normalement, et s'il n'y a pas de traces plus importantes que ça sur l'économie, hormis pendant 2-3 mois, normalement c'est plutôt bon signe. Mais oui, il y a quand même quelques éléments qu'on va devoir surveiller dans les semaines qui arrivent pour confirmer qu'on est bien en train de tourner la page.
8642 points, c'est le record à battre pour le CAC 40 et nous sommes ce matin à 8475 points, une hausse de 1,5%. Merci beaucoup Alexandre Baradez de nous avoir accompagné ce matin. Dans un instant, vous retrouvez les experts, 9h30, 10h30 avec Raphaël Legendre et puis la séance à suivre, ça sera bien sûr dans Tout pour investir avec Erwan Maurice et puis cet après-midi dans BFM Bourse avec Guillaume Sommerer en préouverture. Wall Street est nettement dans le vert avec notamment le Nasdaq 100 qui gagne quasiment 2% en préouverture plus 1,3% pour le S&P 500. Très bonne journée. À demain, 9h.
Good Morning Market sur BFM Business.